13h10, temps universel. Le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Céline Pellarin, bonjour.
Bonjour Edmond Sadaka et bonjour à toutes et à tous. Les affaires russes aux États-Unis, les révélations se multiplient et 3 enquêtes sont en cours. La Maison-Blanche doit faire face aux convocations de la justice. La prochaine, ce sera dans quelques heures. Le ministre de la Justice, Jeff Sessions, sera entendu par une commission de la Chambre des représentants. Harim Lipold vous expliquera le contexte et les enjeux de cette rencontre. Et cette affaire russe sera bien évidemment dans la revue de presse de Stéphanie Schuller. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Les médias américains qui font également le bilan, celui du déplacement de Donald Trump en Asie. Le président rentre aux États-Unis après une tournée diplomatique de 12 jours et les éditorialistes, vous l'entendrez, ont la plume acerbe. On ira également en Haïti où l'affaire des pétro-caribés, leur détournement de fonds se poursuit. Les ex-responsables politiques mis en cause par un rapport donnent de la voix. Enfin, vous entendrez un reportage d'Anne Corpet sur l'île américaine de Tangier. L'eau grignote ses côtes, mais la plupart des habitants refusent de croire à une conséquence du réchauffement climatique. La Russie a-t-elle influencé l'élection américaine de 2016? L'équipe de Donald Trump a-t-elle établi des contacts secrets à Moscou pendant la campagne présidentielle? Y a-t-il eu collusion avec la Russie? Les interrogations sont multiples dans ce que l'on appelle l'affaire russe et c'est autant de boulets pour le président Donald Trump. Il ne se passe pas un jour sans nouvelles révélations et des enquêtes sont actuellement en cours. Nouvelle étape aujourd'hui, le ministre de la Justice, Jeff Sessions, sera entendu par une commission de la Chambre des représentants. Bonjour Harim Lipold.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Et que peut-on attendre de cette audition?
Bien, sans doute pas de nouvelles révélations, mais des explications, car la position de Jeff Sessions, conseiller diplomatique de Donald Trump pendant la campagne présidentielle, est devenue très inconfortable lors d'une audition devant le Sénat en juin dernier. Il avait déclaré
« Je n'ai jamais rencontré ou eu de conversation avec un quelconque responsable russe ou étranger concernant une quelconque ingérence dans une campagne ou une élection aux États-Unis. Et je n'ai eu connaissance d'aucune conversation de ce type par quiconque appartenant à la campagne de Donald Trump. »
Or, cette affirmation a été contredite par un ancien conseiller du président, George Papadopoulos.
Eh oui, son témoignage met Jeff Sessions en difficulté, estime l'historien et spécialiste des États-Unis, Corentin Sella.
Il se trouve que non seulement il était présent le 31 mars 2016 lors de la réunion où Papadopoulos a émis le vœu que Trump rencontre Poutine et a raconté qu'il préparait une éventuelle rencontre avec Poutine. Sessions était là, il avait même rejeté d'ailleurs cette proposition, ce qui était tout à fait logique, mais visiblement il l'avait oublié. Et par ailleurs, quelques jours après, on a appris qu'un autre conseiller affaires étrangères de la campagne, Carter Page, avait informé par mail Jeff Sessions de son voyage à Moscou où il allait sans doute rencontrer des officiels russes.
Alors on voit bien Céline qu'il y a un énorme écart entre les premières déclarations de Jeff Sessions au Sénat et les éléments qui ont été révélés par l'enquête du procureur spécial Robert Mueller. Et l'opposition démocrate a déjà fait savoir que ce mardi elle allait mettre Jeff Sessions face à ses contradictions.
Et en fait Harim, quel est le lien entre les auditions au Congrès et l'enquête du procureur?
Alors au total il y a 3 enquêtes distinctes en cours. Au début, il y avait quelques tensions entre les parlementaires et les procureurs, mais à présent, ces enquêtes évoluent en parallèle avec un échange des informations, même si chacune a ses propres objectifs, selon Corentin Sella.
Pour l'enquête Mueller, il s'agit d'établir s'il y a eu des crimes et des délits commis et qui doivent être sanctionnés par la justice. Les enquêtes parlementaires vont davantage se concentrer sur l'aspect politique de la question, savoir s'il y a eu des choses qui ont été de nature à fausser le jeu démocratique, tandis qu'on dira que l'enquête Mueller, elle regarde s'il y a effectivement une collusion active, une sorte de trahison qui a eu lieu entre la campagne Trump et la Russie.
Et toutes ces enquêtes convergent donc vers un même point, la Maison-Blanche.
Exactement. Alors, 3 anciens membres de l'équipe du président ont déjà été mis en examen. Paul Manafort, qui avait dirigé la campagne de Donald Trump, son associé Richard Gates et George Papadopoulos, dont le témoignage, on l'a vu, ébranle les déclarations du ministre de la Justice. Alors, pour l'instant, Céline, Donald Trump n'est pas visé directement, mais selon un observateur, le feu se rapproche du président. Interrogé sur Fox News, son chef de cabinet, John Kelly pense, lui, que toute cette affaire sera bientôt finie.
Apparemment, il reste peu de témoins à auditionner. On espère que l'enquête touche à sa fin. Comme pour toute autre personne, c'est effectivement perturbant pour le président de faire l'objet d'une enquête.
Et est-ce que John Kelly a raison d'espérer?
Alors, si on se réfère à d'autres enquêtes de procureurs spéciaux, comme celle menée par Ken Starr sous la présidence Clinton, je dirais que non, les procédures prennent plusieurs années. Même chose pour les enquêtes parlementaires. On est sans doute parti pour un marathon qui durera jusqu'à la fin du mandat présidentiel avec des conséquences politiques et électorales imprévisibles.
Merci à Rimli Paul d'une affaire russe qui continue sur RFI avec la revue de presse de Stéphanie Schuller. Et Stéphanie, cette étrange situation, alors que Jeff Sessions sera entendu par la justice sur ses soupçons de collusion avec la Russie, ce même Jeff Sessions, ministre de la Justice, pourrait nommer un deuxième procureur spécial.
Oui, absolument, Céline, un procureur spécial qui aura également pour mission d'enquêter sur l'ingérence russe dans la dernière présidentielle américaine, mais cette fois-ci au sein du camp démocrate. En juillet et septembre dernier, l'élu républicain Bob Gutlett, membre du comité judiciaire de la Chambre des représentants, écrit deux lettres au ministre de la Justice, rapporte le Washington Post aujourd'hui. Il lui demande de nommer un deuxième procureur spécial afin de mener une enquête sur plusieurs points que le camp républicain qualifie de suspects. Parmi eux, la manière dont le FBI a mené l'enquête sur l'utilisation par Hillary Clinton d'un serveur privé alors qu'elle était secrétaire d'État, différentes affaires au sein de la Fondation Clinton et la vente controversée d'une compagnie d'uranium à la Russie.
Et le département américain de la justice a-t-il répondu aux lettres de l'élu républicain?
Oui, tout à fait, et c'est cette réponse que s'est procurée le Washington Post. Le numéro 2 du ministère de la justice y affirme que Jeff Sessions a ordonné à plusieurs procureurs fédéraux d'évaluer les points soulevés dans les lettres de Bob Gutlett et de faire des recommandations pour savoir si la nomination d'un deuxième procureur spécial est nécessaire ou pas. Ces derniers mois, Donald Trump n'a cessé de critiquer le département de la justice, lui reprochant de ne pas mener des enquêtes au sein du camp démocrate concernant l'affaire russe, rappelle le Washington Post, qui conclut « Si le département de la justice fait certes partie de l'exécutif et que le ministre de la justice est nommé par le président, la Maison-Blanche évite habituellement de se mêler des enquêtes criminelles en cours ». Cette période semble révolue, Céline.
Et Donald Trump qui rentre aujourd'hui à Washington après une tournée de 12 jours en Asie pour la presse outre-Atlantique. C'est l'occasion de faire le bilan de ce déplacement présidentiel.
Et le New York Times retient de cette tournée avant tout, je cite, une attirance aussi étrange que puissante qu'exercent apparemment les dirigeants autoritaires sur le président américain. Donald Trump, un homme qui aime importuner les gens, devient une chose molle, tout sourire et à la rhétorique pétulante en compagnie d'hommes forts comme Xi Jinping, Vladimir Poutine ou Rodrigo Duterte. Peut-être voit-il en eux le reflet de la personne qu'il aimerait être, s'interroge le quotidien avant de conclure. La manière obsessionnelle de Monsieur Trump d'investir dans des relations personnelles avec ses homologues peut fonctionner peut-être pour un agent immobilier, mais le degré avec lequel le président des États-Unis est prêt à tout pour bien se faire voir par les dirigeants les plus répugnants du monde, tout en accordant moins d'attention aux alliés démocratiques des États-Unis, porte un coup sérieux à la crédibilité de l'Amérique.
Et d'autres journaux américains sont tout simplement soulagés, Stéphanie, que Donald Trump n'ait pas jeté d'huile sur le feu dans la crise nord-coréenne.
Mais tout le monde se félicite du fait que le président a réussi à tenir sa langue, constate le Los Angeles Times. Et en effet, Donald Trump n'a pas tenu des propos insultants et provocateurs qui ont si souvent exaspéré ses conseillers et alarmé les alliés des États-Unis. Si ce simple fait, poursuit le quotidien, est déjà considéré comme un succès diplomatique, alors la barre n'a vraiment pas été placée très haut, mais par les temps qui courent, c'est déjà ça.
Direction Haïti maintenant, Stéphanie Schuller, où le Sénat doit se pencher aujourd'hui sur le rapport de la commission d'enquête sur l'utilisation des fonds pétro-caribéens.
Et les personnalités politiques épinglées par ce document explosif, qui les accuse d'avoir détourné une grande partie de ces fonds, commencent à donner de la voix, Céline. Pour vous donner une idée de la tonalité ambiante, je vais vous citer quelques réactions recueillies par le Nouvelliste. Le Sénat peut mener des enquêtes, mais pas sur les anciens membres d'un gouvernement. ou encore le Parlement n'a pas à passer des ordres au pouvoir judiciaire, ou encore cette enquête sur l'utilisation des fonds Petrocaribe a été réalisée par des opposants politiques et est donc par conséquent dénuée de toute crédibilité.
Et que va-t-il se passer aujourd'hui alors au Sénat ?
Là, eh bien la question, avec 29 sénateurs en fonction, le parti au pouvoir dispose de 20 membres et alliés, souligne l'éditorialiste du Nouvelliste. Les autres 9 sénateurs ne peuvent pas faire pencher la balance si le parti au pouvoir décide de trancher dans un sens. Si la Chambre haute rejette ce rapport, ce sera alors la légalisation de la corruption en Haïti, estime le journal.
Merci Stéphanie Schuller pour cette revue de presse des Amériques. Et nous vous en parlions hier, le gouvernement vénézuélien a tenu ce lundi une réunion avec les créanciers du pays. Le but étant de restructurer 60 milliards de dollars de dettes obligataires, mais aucune proposition concrète n'a été faite. Caracas promettant seulement de continuer d'honorer le service de sa dette. Seulement, une nouvelle étape a été franchie. Le Venezuela a été déclaré en défaut partiel par l'agence américaine de notation Standard & Poor's. Dominique Bayard, Caracas est au pied du mur.
Pour la première fois de son histoire, l'État du Venezuela n'a pas remboursé dans les temps impartis 200 millions de dollars dus au titre du service de la dette pour 2 obligations. 200 millions de dollars pour un pays qui croule sous une dette estimée à 150 milliards de dollars. Ce n'est pas lourd, mais c'est assez pour déclencher la décision de Standard & Poor's et cela pourrait précipiter la ruine de cet État pétrolier. Les caisses sont vides, ses réserves de change sont passées en dessous de la barre des 10 milliards de dollars. Si le Venezuela utilise cet argent pour régler ce qu'il doit d'ici la fin 2018, eh bien, il n'aura plus un sou pour importer les biens de première nécessité, indispensables à la survie de la population. Depuis que le président Maduro a invité ses créanciers à renégocier la dette, c'était il y a une dizaine de jours, les investisseurs spéculent sur l'imminence d'un défaut total. Leur première réunion hier à Caracas n'a rien donné, mais l'horloge continue de tourner. Dans les prochaines heures à New York, un autre comité d'investisseurs pourrait à son tour déclarer un défaut partiel pour non-paiement d'une traite de plus d'un milliard de dollars cette fois.
La montée du niveau de la mer ne concerne pas seulement les îlots du Pacifique. Aux États-Unis, une île dans la baie de Chesapeake, non loin de Washington, est menacée de disparition dans quelques dizaines d'années. Si rien n'est fait, la population se sait condamnée. Mais paradoxalement, sur cette île, eh bien, ils sont nombreux à ne pas croire au réchauffement climatique. Tangier, une île en sursis, c'est un reportage d'Anne Corbet.
Cameron Evans nous amène à bord de sa barque vers les Uppers, un banc de sable situé au large, autrefois rattaché à l'île de Tangier. Les Uppers, c'est le cauchemar des habitants de l'île de Tangier.
Voilà une des tombes ici.
On est vraiment sur le bord de mer, sur la plage, et on a une plaque tombale.
Polly Parker, elle est morte en 1913 et était née en 1876. Je me souviens quand il y avait le cimetière ici, un peu plus au nord, avec un mur autour et des stèles debout. Maintenant, il n'y a plus rien. Tout est sous la baie.
Là, il y a des briques sur la plage. Des briques qui sont donc issues de maisons qui ont disparu dans la baie.
C'est le top d'un stove. Là, c'est le dessus d'une gazinière, voilà un évier, des toilettes cassées. Il y a tellement de choses qu'on retrouve ici. Une fois, j'ai trouvé un squelette. Ça m'a fait peur. C'est comme une petite ville fantôme. Ça pourrait être le sort de notre île. Je n'aime pas y penser, mais si on ne reçoit aucune aide, on finira comme ça. On sera les premiers réfugiés des États-Unis.
Des réfugiés climatiques.
Oui.
Selon les experts, l'île pourrait disparaître sous les eaux d'ici une soixantaine d'années. Mais à Tangier, rares sont les gens qui acceptent ce terme de réfugié climatique.
My name is James Ukereskridge.
Je m'appelle James Eskridge, je suis le maire de l'île de Tangier. On perd 5 à 7 mètres de terrain par an, c'est beaucoup. On n'a plus de terrain à céder, la mer arrive près des maisons et des commerces. Il faut nous protéger contre l'érosion.
We just need protection. Stop the erosion.
We only talk about erosion, but there are.
Vous parlez seulement d'érosion, mais il y a d'autres facteurs comme le réchauffement climatique.
I just don't believe in it, and I think it's.
Je n'y crois pas. Je crois qu'il y a des cycles, et je ne crois pas que l'homme joue un rôle là-dedans.
You're wearing.
Vous portez un t-shirt Donald Trump.
Yeah. Donald Trump got probably.
Oui, Donald Trump a obtenu près de 90% des voix ici. Il a même pris le temps de m'appeler à la maison. Ce serait une bonne chose s'il pouvait venir ici à Tangier pour construire un mur. On aimerait bien un mur ici.
Yeah, we'll definitely take a wall out here.
Terry Daly, qui tient la seule épicerie de l'île, espère une intervention personnelle du président.
J'attends que Trump vienne ici construire un mur dans la mer pour lutter contre l'érosion avant que l'île disparaisse.
Vous ne parlez que d'érosion. Le niveau de la mer ne bouge pas ?
Bon, ça monte et ça descend. Mais vous pouvez parler à des gens de 50, 60 ans, ils vous diront qu'ils n'ont pas vu monter le niveau de la mer.
La famille de Claudia Parks vit sur l'île depuis 4 générations. Pour combien de temps encore ? C'est la seule question qui taraude cette jeune grand-mère.
Moi, je me fiche de savoir quelles sont les causes du phénomène. Ce qu'il faut, c'est que le problème soit résolu. On espère que Tangier sera toujours là pour que nos petits-enfants puissent continuer à venir et profiter de notre merveilleux mode de vie.
Le coût de la digue, de ce mur marin qui pourrait sauver l'île, est estimé à 10 millions de dollars, une somme impossible à réunir sans l'aide fédérale ou celle directe du président. Anne Corpet sur l'île de Tangier, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Un journal présenté par Marie Bauchet. Bonjour Marie.
Bonjour Céline.
À la une semaine pour lutter contre la violence dans un collège de Cayenne.
Oui, il s'agit du collège Auxence-Contout, un collège qui est le théâtre de violences quotidiennes. Le phénomène s'est aggravé depuis la rentrée de septembre, mais l'équipe éducative espère bien stopper cette violence. Cette semaine, des actions de sensibilisation sont organisées dans le collège. Olivier Damon est allé à la rencontre des élèves pour Guyane Première.
La vie collégienne, Privaine, en classe de 5e cette année, ne l'avait certainement pas imaginé ainsi.
J'étais assis de cuir sur une sorte de brique, une sorte de cube. Sous le préau, et puis j'étais en train d'écouter de la musique sur mon portable, et puis après le gars il est venu, il m'a poussé, et après je suis tombé, puis je l'ai frappé, puis il m'a frappé là, puis ça a continué, puis quand on a fini, ben, on avait mal.
Bagarre pour certains, agression pour d'autres, c'est ce qu'a vécu Alexiane l'an dernier pour ses premiers pas au collège à Contou.
Une fois il y avait une fille qui voulait me battre, elle m'a insulté, elle est venue me battre devant le collège, elle m'a battue. Et je pouvais rien faire, je me sentais trop mal et je savais pas comment me défendre parce que c'était un choc pour moi.
Ces dernières années, et particulièrement depuis la rentrée de septembre, la violence est le quotidien de ces jeunes. Une prise de conscience que l'équipe éducative espère accélérer avec cette manifestation. Toute cette semaine, ces élèves vont parler de la violence avec leurs camarades, mais surtout avec des fonctionnaires de police, des personnels de santé, des artistes et divers acteurs du monde associatif. Un moment pour se retrouver, pour changer les mentalités.
Un reportage d'Olivier Damon. Comment adapter la société guadeloupéenne face aux évolutions de la population ? Une question importante alors que la Guadeloupe fait face à un vieillissement de ses habitants. Pour tenter de dégager des réponses, un séminaire est organisé aujourd'hui et demain par le CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Objectif : trouver des réponses durables. Explication d'Éric Lefebvre pour Guadeloupe Première.
En 2013, la Guadeloupe comptait 54 seniors pour 100 jeunes. Dans une douzaine d'années, à l'horizon 2030, ce devrait être 134 seniors pour 100 jeunes. Ainsi, les personnes âgées de 65 ans et plus représenteraient plus de 28% de la population totale guadeloupéenne, faisant de notre département le plus âgé de France. Cette tendance démographique est une révolution silencieuse. Elle pose des questions sociales, économiques et environnementales. À terme, elle laisse entrevoir une modification des modes de vie, des besoins et des attentes de la population. Cette gérontocroissance va forcément avoir d'importantes conséquences sur les domaines de la planification, de l'aménagement et de la construction. Le séminaire du CAUE doit donc permettre d'apporter des pistes de réflexion et des éléments de réponse, en s'appuyant notamment sur des retours d'expérience de Guadeloupe, bien sûr, mais également de Martinique, de Porto Rico et même de Colombie.
C'est la fin de ce journal. Bonne journée à tous et bonne journée Céline.
Merci Marie Bauchet, bonne journée à vous également. Et c'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques réalisé par Jonathan Brady. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pour retrouver les informations développées dans ce journal, je vous donne rendez-vous sur le site internet de RFI, mais également sur notre page Facebook. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et un commentaire, ça nous fera plaisir. Excellente journée à l'écoute de la Radio du Monde. Vous écoutez RFI, il est 13h, bientôt 29 minutes en temps universel.
Du 8 novembre au 3 décembre 2017 à Paris, le Festival international Jean Rouch vous invite à voir le monde autrement. Expositions, projections, conférences, débats, le festival offre un lieu unique de découverte et d'échange des savoirs. Entrée libre et gratuite. Plus d'informations sur comitédufilmethnographique.com en partenariat avec RFI.
7 milliards de voisins, émission spéciale.
Hello les voisins et les voisines, c'est Youssoundour. Je vous donne rendez-vous ce jeudi avec Emmanuel Bastide.
Et avec Youssoundour, nous allons débattre. Que peut-on attendre des artistes engagés pour des causes sociales? Quelle est leur influence réelle?
Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, Emmanuel Bastide.
Du lundi au vendredi, à partir de 10h10 TU.